Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 10 janvier 2009. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farah et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans les médias, voici le magazine jeunesse trentenaire que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
On s'est pris des parpaings dans la gueule, on s'est relevé, et tu vois Dragon Ball, Son Goku, plus on prend dans la gueule, plus il devient puissant, bah nous c'est ça.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, bonne année Thomas.
Bonne année Xavier, bonne année à tous.
Ouais, j'espère que tu vas bien. Oui, je sais, j'ai un peu de mal là avec l'overlay du nouveau cadre 16.9 en ce moment.
Ah, fait péter les moyens.
Oui, bah, un petit peu mieux quoi. Voilà, là, normalement on devrait passer au Dolby Surround si tout va bien en 2253. Rendez-vous à ce moment-là pour le supplément week-end numéro 16775, un truc comme ça.
On sera encore là.
Oui, 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 bien sûr. Comme des vieux cons à dire, oh mais à l'époque, moi je me souviens quand Dofus a été lancé que c'était une applette en flash. Et justement, on va parler de nos amis d'Ankama, puisque là, tout à l'heure, dans l'intro, on a repassé un extrait de l'interview que l'on avait diffusé en octobre dernier, novembre dernier, excuse-moi.
Voilà, ouais.
Leur univers et tout le reste, c'est principalement leur bande dessinée. Mais il n'y a pas que ça, et ça, on le verra tout à l'heure. En attendant, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois ?
Eh bien, nous avons notre festival préféré.
Eh oui, nous avons le festival d'Angoulême, 36e du nom, co-présidé par Dupuis et Berberian, ce qui est quand même une première dans cette organisation-là. Et aux dernières nouvelles, il y a du givre sur la grande place d'Angoulême, à tel point que les
ouvriers... Il y a du retard.
Voilà, ils ont inauguré une nouvelle place, là où cela a lieu d'habitude. Alors ils étaient tout contents, etc. Le problème, c'est que c'est verglacé à tel point qu'ils se cassent la gueule dessus. Donc il y a un montage qui sera un petit peu en retard. Et nous, on va y aller avec les crampons cette année. Donc normalement, ça devrait arriver dans les temps et on verra. Oh, du sport, il est arrivé avec tout plein de bonnes choses.
Je sens qu'il y a eu des gourmands chez toi qui ont fait leur fête à la boîte de chocolat.
Et mince, j'aurais dû te demander d'apporter du shampoing, puisque en plus de cela, il y a une galette tout à l'heure. Donc je rappelle le principe de la galette des rois sur le supplément week-end. C'est un gage qui concerne un film qui va sortir très prochainement, à savoir le 4 février. Le gagnant, entre guillemets, de ce mauvais concours devra s'illustrer lors de l'émission du 7 février pour la chronique d'un... Voilà, voilà, Thomas a fait la gueule, il sait déjà ce qu'il attend.
Kikolol.
Ah ouais, c'est trop génial, c'est le film avec que des kikololeurs. Facebook, tu parles. En attendant, qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'économie de la bande dessinée ? Oui, je sais, ça fait un petit peu bizarre après nos amis qui ont complètement dégénéré de t'inquiète. Figurez-vous que Robert Laffont, qui est un éditeur qui est assez connu en général plutôt pour ses romans et pour ses guides pratiques, s'était lancé dans la bande dessinée il y a 2 ans avec la collaboration de Maria Smirnoff, qui était la principale animatrice du catalogue de Baguera à une époque, et elle a fait venir plein de dessinateurs prestigieux, Christophe Alves, Jean Dufaux, le scénariste François Rivière, le dessinateur Pablo Sarpieri, Pierre Weiss, Robert Dahl et tout cela. Et ben le catalogue bande dessinée de Robert Laffont dans la collection Robert Laffont BD a été revendu aux éditions Delcourt. Comme quoi, ben voilà, on part d'un côté, on repart de l'autre. Et puis, ciao, bye bye. Donc voilà, Delcourt avait déjà récupéré Akata, entre guillemets. Hein, Akata leur donne leur expertise sur le marché manga. Ils avaient racheté les éditions Tonkam, qui étaient fondées d'ailleurs par le fondateur de Akata. et ils ont aussi des d'autres catalogues indépendants, ben voilà, c'est fini. Et ça,
alors attention, vous avez en direct Xavier qui se bat contre un lecteur CD et G-Sport qui fait joujou avec un micro. Ah oui, effectivement, oui.
Et le lecteur CD est mort, voilà.
C'est... Ouais, c'est pas très jovial ce qu'on on est en train de voir là.
Voilà. On va faire la réparation en direct. Lance du sport tapote délicatement pour essayer de dépanner la crémaillère du lecteur CD. C'est ce qui fait sauter donc le disque derrière. Ça n'est vraiment pas pratique. Là aujourd'hui, je crois que on va travailler. C'est dommage parce que en fait, il va falloir Thomas que tu ouvres de suite ton petit cadeau. Parce qu'on n'a pas le choix là, on est obligé de le faire en kata.
Non, une clé USB.
La clé USB navette de l'émission, mais ma foi, qu'est-ce qu'il y a dessus? Voilà.
D'accord. Alors, est-ce que ça nécessite de visualiser ce qui se passe sur ton écran?
Non, ce sera au son. Parce qu'en même temps, on est en train de câbler l'autre lecteur CD en catastrophe, donc c'est un peu le bordel. C'est un fichier avec marqué dessus Bernard Minet.
Non, l'intégrale de Bernard Minet.
Non, l'interview de Bernard Minet que l'on a fait lors du TGS. Peut-être que tu peux présenter l'individu et alors, en parler.
Alors, ceux qui connaissent pas Bernard Minet, ça veut dire que vous avez moins de 25 ans. Bernard Minet s'est surtout fait connaître pour avoir chanté à peu près 90% de tous les dessins animés qui ont été diffusés quand on était petit et surtout au Club Dorothée. C'est faisait partie de la non moins célèbre bande des célèbres musclés qui ont chanté des tubes comme c'est la fête au village ou autre gâterie. Il est également tourné dans l'une des sitcoms d'AB qui s'appelait Salut les musclés d'ailleurs, je crois.
Oui, tout à fait.
Si vous visualisez un peu les musclés, c'est celui qui était à la batterie le tout petit et qui était souvent déguisé en force rouge. Et donc là, en ce moment, bah, il surfe sur son succès d'antan en enchaînant les galas et les tours de chant auprès d'un public d'otaku geek qui sont un peu nostalgiques. Voilà. Donc Bernard Minet, si vous enquillez tous ces génériques quand même à la suite, vous allez voir qu'il y a un peu de similitude d'une chanson à l'autre, mais tout ça, il l'explique dans l'interview justement. Aujourd'hui, Bernard Minet, quelqu'un qui était tout à fait adorable, dans l'interview était assez convivial et s'est assez bien passé. Bon, il nous a un peu pris pour des petits débutants.
Oui, enfin là, il peut, à mon avis, s'il réécoute l'émission, il peut dire oui, c'est quand même des petits débutants et tout. Ah, oui, on n'a pas les moyens d'AB ni de TF1, donc quand le matériel saute, eh ben il faut réagir en catastrophe comme on peut. Et donc voilà. Ceci dit, c'est un individu qui a quand même passé un certain âge, mais qui joue, je vais pas dire qu'il joue sur la nostalgie, mais justement, il s'est modernisé. Il a un groupe de heavy metal derrière avec lequel il reprend ses chansons. Malheureusement, ils étaient pas présents au Toulouse Game Show et il explique pourquoi justement dans l'interview. Et il est plutôt abordable. Honnêtement, il est d'un contact vraiment très 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 amical avec son public.
Moi qui sais mettre la patate et l'énergie dans ses concerts.
Il est impressionnant pour cela. En plus, quand on l'a rencontré, il était avec son costume et tout ça, prêt à diriger l'orchestre d'Otaku qui était dans la fosse. C'était absolument fabuleux. Voilà. Bernard Minet.
Bernard Minet, bonjour.
Bonjour les amis. Alors, comment s'appelle votre association?
L'émission Supplément Week-end sur Radio FMR.
Eh ben voilà, vous voyez, Radio FMR, parfait, bah, c'est sympa, je suis content de vous retrouver ici.
Alors, Bernard Minet, comment se retrouve-t-on chanteur de générique de dessin animé et tête à claque dans la sitcom Salut les musclés après avoir été premier prix de percussion au conservatoire?
D'abord, c'est une bonne question, bravo, je vous félicite. Donc, comment, reprenons dans l'ordre,
comment se retrouve-t-on chanteur de dessin animé après?
Eh bien, tout simplement parce que le producteur Azoulay savait que je chantais, donc il s'est pas posé de questions. Quand vous savez, quand un producteur achète des séries à l'étranger, ils remettent un générique français à eux qu'ils éditent. Donc c'était la facilité pour lui. Il m'avait sous la main, donc effectivement il m'a fait chanter une quinzaine à l'époque, en août 87, de génériques, de séries qu'il avait achetées. Mais c'était complètement anonyme. Il n'était pas question de faire Bernard Minet, ni de faire le chanteur, parce que j'étais musicien. Et c'est après, vu le phénomène société de Bioman, qui m'a demandé si je voulais représenter le personnage. Et comme c'était pour les enfants, j'ai dit oui, avec plaisir, je regrette pas. Et ensuite, la seconde partie de votre question.
Tête à claque dans la série Salut les musclés.
Et là, je pense que Azoulay, ça amusait Azoulay et que ça l'amusait de me faire prendre des claques. Mais c'est très difficile, surtout pour la comédienne, parce que donner des claques sans vouloir faire mal au coup ou pas, c'est assez compliqué. Mais je pense que c'est surtout ça, et ça l'amusait de... Voilà. Et premier conservatoire, bah oui, mais ça m'a servi parce que j'ai appris la musicalité et vous voyez, ça m'a servi.
Est-ce que vous regardiez les séries dont vous deviez faire les génériques au préalable?
Pas du tout, non, et même non, parce que le texte était écrit par Azoulay et lui, il ne regardait même pas non plus, il lisait la Bible parce qu'ils ont une Bible avec les choses principales. Les personnages principaux. Donc à partir de là, il faisait un texte en quelques secondes. Et puis je ne l'ai regardé pas non plus pendant les transmissions parce que nous, on préparait le plateau suivant, vous voyez. Et puis on travaillait beaucoup, beaucoup. Donc, puis c'est ma génération, moi j'étais déjà un adulte. Et non, je suis pas spécialiste du tout.
La France a une particularité vis-à-vis justement de la diffusion des séries japonaises, c'est que les musiques étaient complètement différentes par rapport aux musiques originales, à la différence de l'Allemagne, aussi l'Italie, je crois qu'ils ont fait quelques orchestrations bien à elles. Quand est-ce que vous avez découvert justement les orchestrations originales? Est-ce que vous les avez découvertes avant d'entrer en studio ou bien après?
Ah mais... On les connaissait même pas, je veux dire, on cherchait même pas à les découvrir. Je me doutais bien qu'il y avait d'autres génériques dans d'autres pays, mais moi, je vais vous dire, je vais être très dur, parce que je trouve que je parle pas des récents que je connais pas, mais je trouve vraiment que c'est, pour moi, c'est de la musique au kilomètre qu'ils ont fait les Japonais. Hein. C'est des guitares, vous savez, vous prenez un studio, vous prenez des guitaristes, c'est de la musique au kilomètre, on appelle ça chez nous. Donc, ça m'a pas vraiment impressionné, et cette guéguerre là, je trouve un peu que le mec il critique les textes, et les textes d'Azoulay, ils sont pas plus niais que les textes en japonais. Mais enfin, ce n'est que mon avis, et je pense que si je le disais tout haut dans le TGS là, j'aurais des sifflets. Mais croyez-moi, c'est de la musique au kilomètre, faut pas, non, c'est... Et j'arrive pas, j'ai mon ami Coco Circus qui essaye de me convaincre du contraire, qui m'a même me faire, en me faisant écouter les OST, je peux pas, c'est, je trouve ça vraiment...
Alors justement, on parle du texte d'Azoulay, est-ce que vous pensez qu'il touchait une prime à chaque fois qu'il utilisait les mots galaxie et univers?
Mais jeune homme, est-ce qu'il touchait une prime pour les mots pouvoir, amitié? Vous voyez? Non mais ça, les mots, oui, et c'est pour ça que c'est très difficile pour les textes, pour moi, c'est très difficile, croyez-moi.
On se souvient parfois plus de la chanson que du dessin animé. Quelle est votre part dans le succès des dessins animés à l'inverse? Des séries ont-elles aidé des chansons moyennes à rester dans le cœur des fans, d'après vous?
On se souvient surtout plus des génériques parfois que du dessin animé. Oui. Et à l'inverse, est-ce que des dessins animés ont aidé certaines chansons qui étaient plus moyennes que d'autres?
Je pense que de toute manière, le succès d'une chanson est lié au succès de la série. Si les animés plaît pas, tu peux mettre une superbe chanson. C'est un souvenir, c'est un tout. Donc le succès de la série et par exemple Bioman, c'était ça quoi. C'était ce phénomène Bioman. Donc la chanson forcément, voilà.
Avec le recul, dans quelle activité vous êtes-vous le plus éclaté dans cette période Club Dorothée les musclés? Acteur, chanteur, batterie ou la scène?
Écoutez. Tous les postes, parce que c'était un véritable plaisir et parce qu'on faisait des grandes scènes, donc là, sur la scène c'était génial, le fait de faire les séries c'était une expérience magnifique aussi, chanter, tout me plaisait et je prends beaucoup de plaisir encore aujourd'hui à faire le guignol en chantant ces choses-là qui sont importantes pour les personnes qui ont été touchées. C'est une question, voilà, et moi je ne suis que le petit facteur, je dis souvent que je fais guignol en vrai quoi, c'est tout, mais je suis très très heureux de faire ça et là voilà, c'est de la joie, et au moins pendant on oublie toutes nos misères, et eux et moi.
Là tout récemment Azoulay a lancé une chaîne donc IDF1 dans laquelle on a retrouvé pas mal d'anciens du Club Dorothée. Il y a une partie qui l'a rejoint, il y a d'autres, par exemple notamment Corbier qui est toujours en conflit je crois avec le producteur. Vous, quelle est votre position? Vous aurez aimé en faire partie ou vous dites non, finalement c'est une page qui est passée, il vaut mieux rester sur ses bons souvenirs et rencontrer réellement son public?
Pour Corbier, il n'est pas en conflit avec Azoulay. Corbier, il a eu tellement de mal, enfin c'est ce qu'il dit, hein, à quitter cette image-là. Il a mis 10 ans, c'est ce qu'il dit toujours, parce que d'ailleurs, qu'il n'a pas envie de revenir en Inde, parce qu'il fait, vous savez, des spectacles, des trucs très sympas. Je suis allé le voir plusieurs fois d'ailleurs, qui sont ce qu'il faisait avant. Et il n'a pas envie de jouer sur cette corde nostalgique. On n'a pas la même, moi, on n'a pas la même fonction. Moi, je prends du plaisir à aller à la rencontre, à partir sur les routes. Je prends beaucoup de plaisir à ça. Mais je comprends le mec qui n'a pas envie de faire ça, il ne fait pas.
Allez, bon, Bernard Minet, merci beaucoup.
Merci à vous les gars.
Je suis désolé, le lecteur est parti. Alors il y en a un qui est coincé, il y en a un autre, bouton stop qui a refusé de démarrer. Voilà.
Alors on est vraiment lâché au moment fatidique.
Ah oui, vraiment par hasard. Sinon, peut-être une précision. Alors c'est vrai, on en parlait hors micro comme d'habitude. Par des conversations supplémentaires au week-end, c'est tout aussi intéressant en off qu'à l'antenne. C'est vrai que il y en a qui on n'avait pas le même âge à l'époque, et c'est vrai qu'on aurait eu 25 ans, on aurait eu cette proposition fabuleuse, peut-être sur la principale chaîne de télé, de s'éclater, d'être payé à s'éclater et à jouer de son instrument favori. Lui, il a vécu une très belle vie à ce moment-là. Je pense qu'il il aurait eu tort de se poser des questions métaphysiques.
Et puis voilà. Faire des émissions habillées au cosplay avant l'heure, parce que ça n'existait pas à l'époque en France. Faire une sitcom où tu es entre potes et puis t'as une extraterrestre qui s'appelle Igege qui t'embrasse à tout bout de champ, bah ouais, pourquoi pas. Hein.
Surtout qu'elle était pas crade, voilà.
Ouais, elle était pas mal, oui.
Donc voilà, après c'est vrai que ce qu'il dit, ça peut faire hurler un petit peu tout le monde quand on parle, quand il dit oui, c'est la musique au kilomètre, etc. Je ne pense pas qu'il parle des séries japonaises actuelles adultes que l'on voit à notre âge. Je pense qu'il parle plus de ce qu'il a pu voir, à mon avis, sur les chaînes du groupe AB, c'est-à-dire plutôt Naruto, où là effectivement c'est de la musique pop au kilomètre, etc. On on n'est pas dans le Yoko Kanno ou dans Joe Hisashi. Il y a quand même, c'est vrai, c'est un très vaste panel et il ne connaît pas forcément, donc on ne peut absolument pas le lui reprocher de ne pas en parler.
Enfin, en tout cas, imaginez-vous à notre place,
à ta place.
À ma place, oui, c'est vrai. On s'est fait un petit cadeau. Je me suis fait un petit cadeau, voilà. Donc d'un gars qui a chanté tous les génériques de dessins animés qui accompagnait mon adolescence, donc c'était cool.
Ah, voilà. Si maintenant tu peux enlever ce t-shirt Saint Seiya qui quand même agresse violemment les yeux.
Non, justement, je n'ai pas mis aujourd'hui.
Ah, excuse-moi, mais c'est la radio, on s'en aperçoit pas.
J'ai mis un autre t-shirt de geek.
Oh, Sin City, pas mal. Pas mal. Moi, je me suis trompé de chaîne, j'ai mis celui de Antenne 2, voilà.
Ah, mais t'as mis avec ta rue, soyons.
Voilà, exactement. Une erreur de raccord tout à l'heure pendant l'habillage.
Je l'ai passé aussi sur TF1, hein, Goldorak.
Je ne sais pas, je l'ai pas sous les yeux, mais je crois que de ce côté-là, il y avait un léger conflit. Interruption musicale avec Yoko Kanno, justement. Tank, générique d'ouverture de Cowboy Bebop. Il y a un truc qui explose et déchire absolument tout. Yoko Kanno and Seatbelts, générique d'ouverture de Cowboy Bebop. Thomas,
oui.
Où étais-tu entre Noël et le Nouvel An? Pourquoi nous as-tu lâché?
J'étais chez moi, j'ai rien fait de soulagement. Ah, mais
d'accord.
Oui,
non, et qu'est-ce que t'as fait le samedi avant? Pourquoi tu nous as lâché?
C'est le Nord. J'étais dans le Schnorr. Oui, j'étais à Lille pour la 3e Encarma Convention de l'éditeur de bande dessinée et jeux vidéo. C'était au Lille Grand Palais, donc c'était les 20 et 21 décembre dernier. Et c'était une convention qui présentait un peu tout le panel de l'univers d'Ankama. Alors que ce soit évidemment jeux vidéo, bande dessinée, mais aussi tous les auteurs qui étaient là. Il y avait beaucoup de, il y avait aussi la projection de la série animée. Alors c'était une convention placée sous le signe du vampire, puisque conjointement était lancé l'épisode Vampiro de la série animée Wakfu, c'était l'épisode numéro 6, ainsi que le tome 10 de la série de bande dessinée Dofus qui s'appelle Être bien avec un vampire. Donc à chaque fois il y a un jeu de mots. Hein.
Je m'inquiète parce que c'est vrai que maintenant qu'on connaît les individus, je me méfie.
Donc on pouvait avoir une certaine scénographie sur place autour du vampire, puisqu'il y avait le château gonflable de deux vampiros qui était pas à l'échelle 1 mais assez énorme. Il y avait Souillon qui avait demandé à être tout seul dans une installation pour faire ses dédicaces. Ça s'appelait le Maliki Horror Show, avec un gigantesque panneau de plusieurs mètres décoré de ses personnages. Souillon d'ailleurs était maquillé, grimé avec une cape noire pour faire plus gothique. Les jeux vidéo de...
Il a pas besoin, il a les yeux tirés déjà.
Oui, voilà. Les jeux vidéo étaient à l'honneur, donc on avait toujours les classiques Dofus et Dofus Arena. Il y avait la version bêta de Wakfu, le dérivé de Dofus qui était en test. Le jeu de cartes Wakfu, ainsi que, la semaine d'avant avait été annoncé un partenariat qui venait d'être signé entre Microsoft et Ankama, qui vient d'ouvrir une nouvelle branche Ankama Play pour développer le futur Islands of Wakfu, sortira fin 2009 sur Xbox 360.
C'est quand même un petit peu dommage parce que Ankama est l'une des rares boîtes de jeux vidéo à sortir le même jeu sur Mac, sur PC sous Windows, PC sous Linux, ça restait jouable.
Oui, mais c'était un jeu online, alors que là ce sera peut-être un jeu différent.
À mon avis, il y aura forcément une possibilité online quand même de la 360.
Ensuite, pour rester dans la bande dessinée, j'ai appris que soit Tot nous avait pas totalement dit la vérité, soit a changé d'avis depuis, puisque Ankama aura bien un stand Angoulême. Un petit stand.
C'est un stand underground comme l'année dernière.
Un vrai stand de 20-30 mètres carrés avec des auteurs, avec des vraies dédicaces et tout.
D'accord.
Donc voilà.
Bien.
Donc, a changé d'avis.
Bien. Il s'est laissé attendrir. C'est peut-être parce qu'il a dû, il a vu les réactions sur la pige de l'interview qu'on a passée sur ActuaBD. Sur actuabd.com. Donc là c'est les professionnels qui réagissent, donc à mon avis
certainement des retours. Oui, je vous ai ramené deux de l'auteur de Freesquill qui s'appelle Florent Maudou, et de Xa, le character designer en chef de Wakfu. C'est un gars bourré de talent qui est énervant lui aussi.
Ah, t'as envie de lui péter les bras encore une fois.
Exactement, d'ailleurs on lui a dit en interview. L'un des temps forts de la convention, c'était le fameux la rencontre de catch qui avait lieu samedi soir. Alors, il y avait 8 combats organisés sur le ring, dont, comme c'était convention sur le thème du vampire oblige, donc il y avait le dernier combat, il fallait mettre le vaincu dans une cercueil, un peu comme dans The Undertaker, hein, pour les connaisseurs. Et là, il y avait un vampire qui était l'un des deux catcheurs. Il y avait un autre combat qui mettait en joue 7 combattants
c'était
en même
des,
temps.
C'était des catcheurs professionnels.
Oui, des catcheurs professionnels.
Assez connus dans le circuit.
Internationaux. Oui. Et il y avait aussi un autre combat qui mettait en valeur 7 combattants qui devaient se bastonner la gueule à coups d'échelle pour aller essayer de choper une pendule suspendue en l'air. Donc dans ce catch, il y avait aussi, alors ça c'était assez rigolo, c'était le tout premier combat, puisqu'ils ont diffusé sur écran géant les fameuses images de la banderole anti-ch'ti du PSG, avec le premier combattant qui arrive, c'est un gars ventripotent, un peu le sosie du Grosse Baleine dans Full Metal Jacket, qui était aux couleurs du PSG, qui a pris le micro, qui a dit « Paris est magique !» en plein pays ch'ti, et dont son adversaire forcément...
Après la banderole,
hein. Oui, tout à fait. Avec la banderole diffusée en écran géant derrière, et le combat, et l'adversaire évidemment était aux couleurs du club de foot de Lille.
Le LOSC.
Voilà, le LOSC. Donc c'était assez bien. Bon, le catch, c'est la première fois que j'en voyais en vrai, donc c'est vraiment un truc à voir. Hein,
t'as pas encore vu, toi, les bandes annonces qu'ils ont diffusées sur nos lives, toi?
Si, il y en avait quelques-unes qui étaient...
Ça te renvoie quand même avec eux.
Oui, ben surtout que... Ben, en plus, quand
en clair, si vous voulez éviter les coups, évitez les deux premiers rangs.
Nous, on était au deuxième rang.
D'accord, tu t'es pris un catcheur sur la gueule ?
Non, mais pas loin.
D'accord.
Non, c'était vraiment... le catch, vraiment, c'est un truc à faire, un truc à voir. Donc, il y avait, ce qui ne gâche rien, l'une des deux combats... parce qu'il y avait aussi du catch féminin. Il y avait un combat yes. entre deux nanas. Donc, l'une qui était sévèrement poumonnée et qui a déclenché... on va dire un torrent de dédicaces demandées un peu à la sauvage. Voilà.
Pas mal.
Voilà
pas
ce que mal. Ce que je pouvais dire sur la Ankama Convention qui était bon quand il faut savoir que le cœur de site d'Ankama est de 8-12 ans pour le jeu Dofus, donc si tu n'appartiens pas à cette tranche d'âge là, tu as un peu vite fait le tour. Par contre, bon, voilà, tu profites un peu de la scénographie, tu peux te poser pour voir un peu tous les épisodes de la série animée Wakfu, etc. Donc voilà, c'était assez quand même assez réjouissant et bien sympathique. Donc voilà.
Ok. Et plus d'informations sur le site ActuaBD, puisque Thomas y a fait une chronique. T'aurais pu le bookmarker, que les gens ils aillent sur supplementweekend.fr, ils le retrouvent d'ailleurs. Voilà. JB étant arrivé, on va...
Bonjour JB.
Bonjour, bonjour. On va faire...
couper la galette.
On va couper la galette pendant que Thomas fait la chronique. Donc tu fais autant de parts qu'il y a deux personnes, plus une.
J'ai des petits yeux, il faut que je vous dise combien on a de personnes.
Alors, tu vois ta main ? Tu vois ta main ?
5 ? Je vois déjà 6 personnes, tout
voilà.
Ça fait 7.
Voilà. Ouais. Maintenant, tu prends un compas et tu te débrouilles. Thomas, là, t'as quelque chose entre les mains, et ma foi, c'est pas n'importe quel dessinateur qui est en question. Puisqu'il s'agit quand même d'un des très très grands dessinateurs qui a fait les très riches heures de chez Delcourt, Stan.
De Stan Evans.
Voilà, qui a fait entre autres Vortex et plein de BD. Bon. Si.
Je comprends
avec
Rod.
Ouais.
Oui. Alors
oui.
Stan.
Découpe.
Donc là, il s'agit du bouquin qui s'appelle Diary of Inhuman Species. Parce que figurez-vous que Stan s'est fait enlever par des extraterrestres. Et il en a tiré de cette expérience quelque chose de bien productif, puisque il a fait appel aux résidus de mémoire qui lui restaient de cette expérience hors du commun pour coucher sur papier chaque jour pendant un an un alien. Donc vous avez donc un bouquin regroupant 366 aliens.
Ah ouais, quand même.
Ceux-ci sont classés par sexe, par caractère, c'est-à-dire agressif, dangereux, pacifique, affectueux, par zone, terrestre, maritime, aérien, dans
hérogène.
Un ouvrage, presque, dans un ouvrage tiré des documents top secret du Department of Research for Inhuman Species et agrémenté de coupures de journaux internationaux mentionnant les apparitions de ces fameux aliens. Si vous voulez jeter un coup d'œil.
Oui, d'abord c'est un très beau bouquin format carré, un peu la taille, la surface d'un boîtier, mais c'est ah oui, c'est joli.
Ouais, moi j'y ai jeté un petit coup d'œil et tout. Alors ce qui est vachement bien, c'est que bon, les monstres sont on va dire c'est des monstres de base hein, que tu pourrais trouver dans n'importe quel BD, de n'importe quel style. Mais ce qui est vachement marrant, c'est le nom qui a été donné aux différents trucs, parce que là t'as des jeux de mots qui tuent de la mort quoi.
Alors je les ai notés, alors certains. Hein. Donc les jeux de mots, on a ce sont les noms des aliens. Hein. Donc on a alors évidemment orthographié pas de la même façon qu'on pourrait le trouver ailleurs. Donc on a le Picasso, le Saucis, le Plutonian Pluto, le Mee, le Nanamuskiri, le Ringo from the Stars, le Dilly Dilly, le Rod Stewart, l'Alberi, le Pikachu.
Chou.
Voilà, chou. On a beaucoup de jeux de mots rigolos. Bon alors. Alors
moi j'ai par exemple le Mork Mushan là, tu vois.
Oui.
Ou alors t'as aussi juste en face le filet au fish.
T'en as un qui a deux têtes, il s'appelle le Stone et Charden. Alors ce que on note aussi, c'est il y a beaucoup de monstres divers et variés selon leur milieu de prédilection, aérien ou maritime. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une cohérence graphique, c'est-à-dire que tu peux pas retrouver, t'as pas l'impression d'avoir un monstre dessiné par quelqu'un ou tiré d'une BD de SF des années 50 ou alors d'un film hollywoodien. C'est vraiment il y a une cohérence quand même quelque part, même si c'est jamais la même morphologie, t'as une résurgence un peu avec des petits yeux qui restent reste toujours un peu avec des pics un peu partout, mais ils sont, je sais pas trop quoi dire, ils sont complémentaires, différents, mais t'as vraiment l'impression qu'ils appartiennent un peu tous au même monde, donc ça c'est pas mal. On a, alors, par contre, on a beaucoup de, enfin, une technique qui varie un petit peu. On a du noir et blanc, de la couleur, on a des monstres faits au trait, on a des monstres à modeler, au crayon, au feutre, on a plusieurs techniques qui, bizarrement, s'intègrent très très bien les unes par rapport aux autres. Et donc évidemment on a l'inévitable cahier graphique à la fin avec quelques petites recherches plus d'autres monstres créés par la Ankama crew, hein. Il y a même des monstres créés par Vince, par Run, etc. Voilà, on a un peu l'impression quand vous regardez des documentaires de Nicolas Hulot, vous savez, sur les trucs marins, tu sais même pas que ça existe, ces trucs, t'as l'impression que ces monstres ils sont tirés de Nicolas Hulot, tu vois.
Et ici une méduse, ah non c'est un sac Carrefour.
Voilà. Tu sais, comme chaque fois que tu vois un requin avec la tête en marteau là, tu te dis mais comment ça peut exister là, c'est un peu pareil, t'as l'impression ils sont quand même pas réalistes, mais tu sens qu'ils auraient pu être dans un film ou une BD, où c'est pas totalement incohérent en fait.
Ils font très Lovecraftien.
Oui, ça, ah oui, c'est pas un extraterrestre à Gérard Houry. Hein.
Voilà, donc
elle est faite.
Voilà, posée.
Donc le Diary of Inhuman Species, et moi, franchement, je me suis bien éclaté à lire ça. Surtout qu'en plus, quand tu vois ça de loin, tu te dis bon, voilà, c'est 366 aliens. Bon, après, t'en as vu 10. Bon, tu pourrais penser que t'en as vu 360. En fait, pas du tout, puisque il y a une évolution dans le style. À la fin, t'as aussi pas mal de monstres féminins avec où on voit des seins, par exemple, puisqu'il a foutu un peu tous les sexy à la fin. Il y a une progression, et en plus tu te prends au jeu, tu regardes, après, à un moment donné tu vas commencer à regarder, tiens, il est de quel milieu lui, tiens, il est aérien, tiens, j'aurais pu jouer maritime ou un truc comme ça. Après tu vas tout refaire parce que au dernier moment t'as compris qu'il y avait des jeux de mots, donc tu vas reprendre depuis le début. Ah, j'avais pas vu ça, tu vois. Donc non, c'est pas mal, c'est un bouquin rigolo, et Diary of Inhuman Species de Stan, qui est sorti je crois cette semaine chez Ankama Edition.
Bon, et ben maintenant on va déguster. Ah bah oui, bah c'était en 8 qu'il fallait découper, je me suis trompé. Voilà, donc je rappelle que il va falloir manger et pas trop vite, qu'il va falloir, s'il vous plaît, ne pas tricher. Je rappelle que le premier prix est une chronique dans cette émission pour le film LOL, un film qui sortira le 4 février en salle, réalisé par Lisa Azuelos avec Sophie Marceau, Christian Terré, Alexandre Astier et plus d'abrutis qui, à mon avis, vont regretter à vie d'avoir tourné dans cette merde. Que pendant les 1h47 de la projection, vous serez prier de ne pas dormir, et que vous devriez en faire non seulement un résumé tout à fait cohérent, du moins sans trop en faire de spoiler, mais en plus en faire une chronique, et si possible en jouer.
Ah ben,
alors,
tu nous connais,
qui c'est qui va y passer?
Tu nous connais, à chaque fois qu'on fait une chronique, même si c'est des bouses, on fait une chronique sérieuse, monsieur.
Oui, non.
Toujours.
Tout à fait, toujours.
D'ailleurs j'ai regardé un peu la fiche, puisque tu as imprimé un truc d'Allociné tout à l'heure. Et Lisa Azuelos, il me semble, il est fait mention de 15 août. Et 15 août, il était pas mal, ce film, avec
correct,
avec Marc Lavoine.
D'accord,
et
donc il y en a qui prennent leur part, donc je crois qu'on peut y aller et commencer à déguster ça. Et pendant ce temps-là, bah moi je vais vous laisser avec un petit morceau tranquille, calme et tout. Vous allez voir, c'est un peu comme du Muse, ça déchire, voilà. C'est le supplément week-end numéro 183. J'espère que vous appréciez le fait que nous faisons cette émission dans des conditions techniques tout toujours aussi pénibles. Mais bon, hein, à la guerre comme à la guerre. Allez hop, zou. Non mais on lâche les bouquins maintenant et on la bouffe.
La galette.
Tu me lâches ça. Non, tu vas le salir. Tu t'en prêteras gentiment et puis voilà. Pendulum, Proper Nightmares, vous allez voir, c'est du Muse.
Quoi? J'ai dit que ça, c'était du Muse?
Que ça ressemblait à du Muse, de loin, hein.
Ah, bon, d'accord, ok. Cinéma, cinéma.
Tu chantes.
Tant, tant, tant.
Donc, Xavier, tu passes ce jingle-là, faut que tu mettes le jingle de cinéma asiatique.
Ouais, hein.
Eh merde, ah, putain,
parce que bon, c'est un western, mais c'est asiatique.
La rubrique cinéma vous est présentée en coréen sous-titré du sud par Thomas.
Avec un western coréen aujourd'hui, Le Bon, la Brute et le Cinglé. Qui l'a vu ici? Ouais. T'as aimé?
Ah, j'ai adoré.
Moi aussi.
Super. Mais c'est quoi ces voix de merde là?
Tu te souviens de qui c'est, avec qui?
Non. C'est avec que des noms coréens.
Alors, c'est un film de Kim Ji-won avec Jun Woo-sung, Byung Lee et Song Kang-ho. Oh là,
mais ils le font vachement bien.
Voilà. Alors, Kim Ji-won, c'est le gars qui avait fait A Bittersweet Life.
Ouais.
Avec son acteur qui joue la brute ici, Byung Hung Lee.
Et, ouais, carré.
Et Song Kang-ho, c'est le rond, le cinglé dans le film, qui jouait déjà dans Memories of Murder et dans The Host.
C'est excellent.
Il joue bien le cinglé, le mec.
Ouais.
Dans les années 30, en Mandchourie, trois hommes se disputent une mystérieuse carte. Le bon est chasseur de primes, la brute est tueur à gages et le cinglé est un voleur. Ils ignorent que l'armée japonaise est également sur les rangs, ainsi que des malfrats de tout poil, des malfrats coréens, des bandits chinois, un peu partout. Donc c'est ce qu'il faudrait dire, c'est avoir attention, c'est un film jouissif, c'est énorme, c'est fait par des malades mentaux.
C'est clair.
Vous vous dites, tiens, il y a la Corée qui s'attaque au film de Sergio Leone, et ben franchement ça le fait grave. T'as un mélange des genres de comédie, de films sérieux, t'as du gunfight, c'est du gunfight asiatique, donc ça calme. Quand ça vire dans l'épopée avec les envolées majestueuses, avec quand ils font des poursuites en chevaux, il y en a pas trois. Donc à la fin tu t'en prends plein la gueule et tu dis oh là là, mais ils y pensaient tout le budget du gouvernement coréen, c'est...
nord-coréen tu veux dire.
Oh, il y en a plus beaucoup maintenant, je sais pas, j'en sais rien.
De toute façon c'est clair, c'est le plus gros niveau
budget,
au point de vue budget, c'est le plus gros budget de coréen
toute
l'histoire, jamais fait.
Et donc on parlait de la brute, hein, Byung Hun Lee qui sera prochainement à l'affiche de G.I. Joe.
Oui, yo yo,
oh, punaise.
Voilà.
Quoi?
Non, ah, non, pas.
Alors ce qu'il y a de rigolo dans ce film, c'est que c'est une pure décalque du Bon, la brute et le truand. Mais là où ça pourrait être une tare ailleurs, genre le film parodique avec Leslie Nielsen, tu vois, ben là c'est intelligent. Il sait s'en détacher quand il faut.
Oui.
Il est vachement. Il suit comme son ombre le film de Léon, mais tu t'en aperçois que là où tu dois t'en apercevoir. Et c'est qu'à un moment donné, tu te dis, mais attends, mais ça suit mais exactement les péripéties du Léon. Sauf qu'ils en font à leur sauce à eux.
C'est à peu près la même histoire. Il y a des moments, c'est plan pour plan, film de Léon. Mais juste les moments précis. Et puis, il y a un côté second degré tout le long du film qui fait que t'as cette finesse du film qui se dégage, voilà. Qui te régale avec.
La façon d'aller dans ces moments clés est différente, et la façon que ces moments clés ont de se résoudre aussi, et l'esprit de ces moments clés aussi est différent, puisque bon, t'imagines bien qu'un gars qui est habitué à cabotiner un petit peu dans les films asiatiques, il va pas jouer une brute comme Ivan Cliff, le taré il va pas jouer comme Eddie Wallach, et le bon, il faut dire, pour ma part, c'est le petit côté fadasse du film, c'est-à-dire que le bon, il est, bon, tu vois que c'est un gars peut-être issu du il était chanteur de pop avant, bon, il a une belle gueule, c'est un petit minet, mais bon, à côté de Clint Eastwood,
Ah, c'est un bon de base.
Un bon de base. Voilà, c'est ça. C'est un bon de base. Alors que le taré et le et la et la.
Mais c'est
la
quoi bouche, un la... bon règle avancée pour toi.
Tu verras la semaine prochaine.
D'accord. Oui.
Donc voilà, c'est un film où tu déconnectes mais grave, tu ris, tu t'es pris à 150% dans le film. Voilà, t'as l'attaque du train, t'as les bah, c'est totalement vu par des Coréens. T'as le gunfight à un moment donné, le mec il échappe au gunfight juste en se mettant quelque chose en protection, mais oui. Te spoiler, c'est ça te nique un des gags du film. C'est vraiment hilarant. T'as des trognes, t'as les personnages de quatrième plan qui sont tous absolument géniaux. Bon voilà, c'est un film à voir. C'est le film qui te met la patate. C'est il faut un peu apprécier le film asiatique à la base, parce que sinon l'humour, bah tu passes totalement à côté, parce que c'est quoi ce style d'humour. Faut apprécier le style d'humour asiatique, mais à part ça, franchement, c'est vraiment de la balle et c'est le bon film de fin d'année qui te fait passer des bonnes fêtes agréables, quoi.
Exactement. Je ne pourrais pas dire mieux que ce qu'il vient de dire.
Merci JB.
Avec grand plaisir. Parce qu'il a fallu réfréner JB qui tenait absolument à le chroniquer.
C'est pas vrai, enfin, mais c'est vrai que je me suis vraiment régalé. Je me suis dit, tiens, ça vaut le coup de proposer ce film-là. Mais en même temps, c'est plutôt le terrain de Thomas.
Et t'as été fair play quand même pour dire, bon, ok, je veux bien le céder à Thomas. Ça me semblait logique.
Bon, tu me fais, elle passe ton chèque hein, après.
Ouais, d'accord.
Voilà. Je t'ai signalé que c'est Thomas qui l'a fait. Donc ça a changé complètement. Là.
Merci de me le rappeler. Ouais.
Tiens, voilà la couronne.
Par-dessus le casque.
Enfin bon, bref. Tout ça pour redonner. Tout ça pour redonner donc les détails techniques du film. Je ne
Alors,
sais pas où
le...
au cinéma.
Oui, il est. J'espère en tout cas. Le bon d'abrut et le cinglé de Kim Ji-won. On l'a vu. C'était avant. C'était encore en 2008. Alors je ne sais pas s'il est encore à l'affiche.
T'aurais pu vérifier.
Ouais, j'ai pas vérifié. Nous, on l'a vu en français en tout cas. En VF.
Pareil.
Tu as vu à la beige.
Oui.
Voilà. Bon. On sait pas s'il passe à côté, s'il passe ailleurs, s'il passe encore.
Il se peut, parce que pour moi c'est vraiment le style de film que tu peux quand même retrouver l'Utopia ou quelques mois plus tard. Parce que c'est des bons petits films coréens, comme je vous parlais justement de Host, de Memories of Murder, de Bittersweet Life, des rares films coréens qui arrivent sur nos territoires et qui sont vraiment intéressants. Il y en a d'autres qui sont un peu moins bons que sont sortis, mais je ne les dirai pas. Mais quand c'est vrai qu'on arrive du si bon cinéma, franchement, autant sauter dessus, quoi.
Tout à fait.
Pendant ce temps, on a notre chroniqueur
qui essaie de trouver la partie film de Google, puisque... bon, bah tant pis. Voilà, on ne va pas trouver. Mais tant pis, ce sera pour une autre fois. Zou, en attendant, du sport...
Tuark.
Quoi?
Zou. Elle était quand même recherchée celle-là, donc je ne peux qu'applaudir, mais bon. Heureusement que du sport est là pour reprendre à la volée cette catastrophe et donc y aller avec les chroniques télévision.
Télévision, bah non, je vais d'abord faire ton boulot à ta place vu que t'as rien foutu depuis le début de l'émission. Bah oui,
ça, c'est vrai.
C'est bien vrai.
Chronique BD, alors là, laisse tomber, c'est pas la peine, quoi, tu vois, sous couvert de Bernard Minet. Hop, j'en fous pas une rame. Le tour est joué.
Ça s'est vu, d'accord.
Voilà, un peu quand même. Alors, ben non, c'est pour rebondir sur ce que je disais la semaine dernière à propos de la sortie Marvel périodique. Chut. Avec tout de suite dans la foulée, hein, celui que je vous avais programmé la semaine dernière, c'était suite décembre, le Marvel Heroes numéro 15, celui de janvier, et avec une couverture qui ne laisse plus tellement de place à l'équivoque, hein, ça paraît clair.
Mon Dieu.
Le bandeau au-dessus du titre générique le dit également. Mais Secret Invasion, les Skrulls sont-ils là? Et avec le retour d'un personnage qui est appelé à beaucoup se développer dans les prochains temps et cette prochaine année chez Marvel, à savoir le retour de Nick Fury. Voilà, je savais que ça allait vous plaire parce que lui, il sait que les Skrulls ont envahi. La planète. Ensuite, il y a la fin du de l'histoire de Thor au nom du père, hein, où Thor il s'est foutu dans une espèce de coma comme ça, quoi. C'est-à-dire que d'abord il a ramené, il retourne sur Terre, il retourne à la réalité. Ensuite, bah il se construit son palais normal. Hein. Ensuite, il ramène les siens à la vie pour les avoir auprès de lui. Et il va savoir ce qu'il va chercher à savoir ce qu'est devenu son père. C'est pour ça que il se met dans une espèce de coma et tout. Il rencontre son père qui est mort depuis longtemps. Mais pourquoi, père, m'as-tu abandonné, tout le bordel. Et le père lui avoue ce qui s'est passé et pourquoi il doit poursuivre sa quête. Voilà. Et ça se termine comme ça, avec toujours pas, bon, c'est toujours pas Olivier Coipel, hein, qui a repris sur Thor, mais c'est toujours Marco Djurjevic, donc qui termine cette histoire qui est bien flamboyante, épique et tout. C'est la légende du Grand Nord et tout, c'est vraiment aussi impeccable. Sinon, on a bien sûr les Vengeurs avec le retour de Nick Fury, ainsi que quelques petits épisodes avec notre ami Hulk dans le Spider-Man 108.
Ça c'est marrant, parce que tu vois l'interaction entre le cinéma et la BD quand même, parce que Nick Fury a fait un retour fracassant, enfin une apparition fracassante au cinéma, et Thor ça va
et
être
Thor,
la prochaine
justement,
franchise.
Thor c'est la prochaine franchise justement. Alors ouais, c'est pour ça que on cette première histoire, si tu veux, ça reconstruit un petit peu la mythologie de Thor dans la BD, avec son alter ego Donald Black, hein, qui cherche également de son côté à ramener les personnages qui étaient les incarnations des dieux Sif et toute la bande. Donc ça remet un petit peu le truc en place pour que les gens, ben, après quand le film va débouler, ben ne tombe pas de Mars en se disant mais qui c'est ce type et tout, qu'est-ce que ça a à voir, et déjà un petit peu quelques idées de base, quoi.
Et puis c'est vrai que Nick Fury au cinéma, encardé par David Hasselhoff, n'avait pas laissé beaucoup de souvenirs.
Ouais, non pas trop, hein, pas trop.
Oh, dans my God.
Sinon toujours
chez... Ah ouais, non mais c'était horrible,
Ouais, non mais même en se forçant, c'était vraiment dur. C'est vrai, quoi. C'est vrai. Et même au second degré, t'essayais, mais
non, même pas.
Bon, ben, il y a des films comme ça, c'est vrai. Alors, toujours chez Panini Comics, le Spider-Man 108, où Spider-Man, il a plusieurs merdiers en cours, déjà à New York, a été plongé dans le gel et tout, hein, ça nous rappelle quelque chose ici et tout. Mais là-bas, ça pèle vraiment, c'est-à-dire vraiment, c'est du New York sous le froid. Eux, ils ont plus l'habitude, hein, c'est vrai, quoi. Mais là, bon, bah, c'est dû au sortilège d'un monstre maya qui a été ramené par un savant un petit peu fou. Et en même temps, le fait que, le fric là, cette espèce de drogué qui s'est introduit dans le laboratoire du professeur Kurt Connors, qui s'est envoyé tous les produits, et donc qui est devenu une espèce de super monstre qui va également affronter Spider-Man. Pour l'instant, il est dans une chrysalide, quoi. Mais tant qu'il fait froid, ça va. Mais quand s'il va redevenir à des températures normales, la chrysalide va à nouveau se réveiller. Donc le monstre va sortir. Tout ça, donc c'est pour Spider-Man. C'est très bien. Hein. Moi, j'adore, hein, en ce moment, quoi, Spider-Man. Et il y a aussi, bien sûr, dans Spider-Man la suite des aventures des Thunderbolts, ou même les Thunderbolts qui sont des super-héros qui sont plutôt du côté, on va dire, vilain, méchant de seconde zone, mais qui là sont embauchés par le gouvernement pour mettre en tôle les autres super vilains méchants, mais qui n'ont pas voulu se plier à la règle du recensement suite à la guerre civile. Et donc bon, c'est des espèces de super flics et tout, et qui sont en même temps des matons, puisque bon,
c'est des mercenaires,
voilà, quoi, mais qui ont leur propre tôle et tout, quoi. Et là, ben, ils sont en train de se foutre la gueule sur la gueule à l'intérieur de la prison et tout, et le directeur de la prison, Osborn, se change de nouveau carrément en son personnage favori, à savoir le bouffon vert, pour en rajouter une couche, et tout ça sous la plume de Warren Ellis. Donc c'est également très jouissif, de toute façon. Mais bon, ça pète bien, faut quand même suivre, hein, y a pas de problème, quoi. Tout ça donc dans le 108 de Spider-Man de ce mois-ci. Voilà pour les sorties BD. Alors j'espère que t'as bien apprécié le Young Avenger.
Oui, je trouve ça sympathique.
Voilà, et ça c'est pareil, hein, c'est également le genre de c'est plusieurs histoires, donc qui présentent les différents personnages qui composent ces nouveaux jeunes Vengeurs, et ça va permettre justement, quoi, cette équipe mise en place, eh bien de pouvoir commencer de nouvelles aventures, une nouvelle franchise qui redémarre du côté de chez Marvel. Du côté périodiques mensuels consacrés au cinéma, Mad Movie, nouvelle formule à partir du mois de janvier, avec plusieurs choix, c'est-à-dire que là c'est un peu compliqué, mais il va falloir comment ça se passe exactement dans les kiosques, parce que tu peux acheter le Mad Movie soit séparément, soit avec le DVD, soit ça c'était avant. Maintenant, on vient s'y rajouter Impact, dont c'est le retour en fait, car il faut savoir que jusqu'à la fin, des années 90, Mad Movie et conjointement tous les deux mois, là ça paraissait en tant que bimestriel, il y avait également édité et sorti, écrit par les mêmes journalistes que Mad Movie, Impact donc, mais qui était un
film d'action,
film d'action et tout ça quoi donc. Et là non, c'est un encart donc parce que c'est nettement plus fin on va dire, mais ça il y a 34
pages. Film d'action nettement plus fin, 30, c'est un petit peu incompatible.
34 pages, non, et ça permet justement de libérer de la place dans le Mad Movie pour des articles, pour des dossiers un petit peu plus complets hein, qui tiennent sur plus de pages. Plutôt que de perdre des pages à faire, par exemple, des revues sur des films à sortir ou sur des thèmes ou des interviews sur des films à sortir, mais dans le genre polar, film d'action, film avec des mecs qui en ont, quoi. Et là, le premier numéro, bon, il a l'air, il est très, vraiment très bien, hein, avec, on va dire l'imposture en couverture, mais ça, c'est normal, hein, puisque c'est une histoire d'imposture. Valkyrie, le nouveau film de Bryan Singer. Il y a également le nouveau film de Catherine Bigelow qui a l'air bien, Les Insurgés de Daniel Craig tiré d'une histoire vraie, hein, Seconde Guerre mondiale et tout à fond, toujours Seconde Guerre mondiale avec retour en deux pages sur le classique du film de guerre Croix de fer de Sam Peckinpah, et surtout l'annonce, et ça nous vraiment t'as la langue qui tombe tel le loup de Tex Avery, les trois royaumes de John Woo, là ça risque de péter pas mal, ainsi qu'un nouveau film qui se veut le digne héritier des films de Blaxploitation, avec on revisite tous les codes du genre, mais sans tomber dans la parodie comme tu l'expliquais un petit peu avant, ainsi que quelques petits films qui ont l'air sympas, Bronson et petits trucs comme ça. Bon, c'est bien. Et puis moi en plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je sais pas si tu remarques, 34 pages, il n'y a pas une putain de pub pendant 34 pages, tu vois, les pubs elles sont dehors, donc ça c'est pas mal.
Et finalement,
c'est peut-être pour ça que c'est plus fort.
Et voilà. Ouais, c'est vrai, mais
voilà, on sait.
Ça se lit bien et tout, tiens, tu peux l'avoir. Non, tu me rends quand même mon programme qui est dedans, quoi, sinon je vais être mal. Dans le Mad Movie de ce mois-ci, tant qu'on y est là, alors un truc sur Dexter, on y apprend également, et ça j'y ai complètement zappé. Et ça, c'est Madame du Sport qui a oublié de m'en parler. C'est la mort de Betty Page il y a un mois.
Il y a un mois, oui.
Il y a un mois, quoi. 85 balais, quand même. Hein. Voilà. Sinon, d'autres.
Je pensais qu'elle portait le deuil, d'ailleurs, justement.
Non. Sinon, les films à sortir, 20th Century Boy, qu'on attend un petit peu quand même, ça peut le faire. Et il y a également le bilan 2008 en ce qui concerne les films Mad Movie. Je vous donne quand même le top 5 et le flop 5 de cette année. Il le fallait quand même.
Attends.
Voilà, alors tu vois, tu le prends légèrement dépourvu parce que c'est quand même le truc qu'on fait assez souvent, ça. Hein. Et voilà, quoi, ça ne suit pas. Et t'es obligé de meubler en plus.
Numéro 5.
Alors, ça, c'est du top. C'est 30 jours de nuit.
Très bien.
Numéro 4.
Diary of the Dead, le dernier Romero en date, un chronique des morts vivants.
Numéro 3.
Un chat dans la gorge avec du sport.
Rec.
Ouais, très sympathique.
Film espagnol.
Le film espagnol.
Balaguero et. Enfin, ils sont deux.
Vivement conseillé.
Ma moitié n'aime pas ce genre de film, il faut le trouver très bon.
Ouais,
voilà.
C'est sûr.
Tu changes de moitié.
Essaye avec le casque. The Mist.
Le
film français, un martyr.
Ah,
ah bon.
Ouais.
De Pascal Laugier.
Voilà.
Ça avait fait tout un point sur Mad Movies, effectivement. Moi, je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est un gros coup dans la face de la censure.
Ça dépote un peu, ouais. Ça
voilà, classement dans le dernier Mad Movies du mois de janvier-février.
Ouais. Alors, dans les merdes, c'est dans les flops, il y a Max Payne.
Attends. Ah ouais, Max Payne, seulement 5.
Alien vs Predator Requiem.
Ah oui.
Ouais.
Prom Night, le bal de l'horreur.
Rien
que tu vois la bande annonce tapier.
Au secours. 3.
Max Payne.
Encore.
Eh ben oui, en 3 du flop.
Ah oui,
d'accord. Ok.
Qui était 5ème.
Numéro 2.
Frontières.
Le film français là.
Étonnant, quoi, mais bon. Ouais. Mother of Tears, alors là je sais pas du tout le.
Bah c'est le Argento ça.
C'est
le troisième film de la trilogie des mères.
D'accord.
Des mères. Ouais. Et des mères.
J'y vais la faire pour moi. Ouais. Voilà.
Alors maintenant tu vas prendre le disque qui est en haut de la pile et tu me mets le dernier morceau. Histoire de faire une petite transition quoi, avant de passer à la télé. Alors donc il y a également un truc qui a l'air tout à fait jouissif. Dans le nouveau Mad Movie, hein, et c'est à ma connaissance, sont les premiers à en parler. C'est une nouvelle série de J.J. Abrams qui s'appelle Fringe et qui est un petit peu du X-Files, mais hardcore, on va dire. J.J. Abrams, le mec qui a fait Lost, le mec qui a fait
Alias.
Alias, donc, j'imagine un petit peu un mélange entre les deux, quoi. Tu vois ce que ça peut donner. Alias, Lost, le mélange, ça peut donner Fringe, matinée de X-Filery, quoi. Alors voilà, tu mets le dernier morceau.
Il y est, et on y va.
Vas-y, tu l'envoies alors.
Lost revient. 1, 2, 3, 4, 1.
Soy de puro Veracruz. Tierra jarocha y bravía, tierra jarocha y bravía, soy de puro Veracruz. No hay hombre como el de aquí, ni tierra como la mía. Dios la vino a bendecir porque se lo merecía.
Porque se lo merecía.
Soy de un pueblo de valor, como lo es el de Alvarado, como lo es el de Alvarado. Soy de un pueblo de valor. Dicen que soy cumplidor, pero que soy muy pelado. La culpa no tengo yo de nacer en Alvarado.
De nacer en Alvarado.
¡Ay, qué bonito es lo bonito! ¡Puro paisanos! Parece que ando en Veracruz.
Naciendo empecé a cantar y cantando me despido, y cantando me despido. Naciendo empecé a cantar. Dicen que no sé llorar, aunque vivo entristecido. Y es que yo me sé aguantar, aunque llueva muy tupido.
Aunque llueva muy tupido.
Ya canté con toda mi alma, pa' todito Veracruz, mi tierra linda dorada, donde vi la primer luz.
Donde vi la primer luz.
¿On podría avoir de morito, por favor? Sí, 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 Speedy, Speedy.
Ay, ay.
Pai mariachi, sol de México, tierra bravia.
Sí, sí. De la télé, ben y a vraiment rien. Hein. J'étais pas inspiré pour cette chronique du tout.
Il y a deux coupures pub au lieu d'une seule. Hein, c'est les soldes.
Ouais, 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 ouais. Et on ça peut commence les commander
un peu pas plus cher tôt. En ce moment chez TF1.
Et ça commence un peu plus tôt et c'est pas plus mal en plus. Hein. On se rend compte que bah ouais, hein, c'est pas plus mal quand ça commence plus tôt.
C'est pas une mauvaise idée. Hein,
franchement,
ils,
quoi.
Ils ont cartonné pour la première soirée avec ouais. En Terre Inconnue et oui. Franchement, je me suis régalé.
Oui.
Moi je m'attendais avec Edouard Baird à ce que finalement il cabotine pas mal etc. Il a été touché et touchant. C'était impressionnant.
C'est monté tel quel. De toute façon, c'est le principe de cette émission, c'est de montrer un autre regard sur la personne et sur le peuple qui visite. Chaque fois, ça a toujours été vraiment très bien réalisé. Par l'équipe, je sais plus qui c'est qu'il y avait eu, je crois qu'il y a eu Team Seat à un moment.
Il y a eu Bruno Solo aussi.
Oui, c'est Bruno Solo et Muriel Robin.
Oui.
Adriana ouais. Carambeu.
Ah bon, celui-là j'ai pas vu.
Passé au zapping, ils ont passé extrait où elle expliquait quel était son métier face à une tribu qui a l'habitude de vivre nue. C'était très fort. C'était très très bon et la voix en disant mais c'est horrible, comment je peux leur expliquer. C'était assez fun. En tout cas, c'était vraiment super.
À part ça, ben quelques petits rappels quand même en ce qui concerne des inédits de séries qu'on connaît déjà, hein, mais dont ce sont de nouvelles saisons. Par exemple, la saison 7 de New York Session Criminelle qui est programmée à 20h50 sur TF1. Hein, ça, il fallait remarquer quand même. Hein, d'habitude, c'était un petit peu plus tard.
23h, 10, voilà. 15, 25, 35.
Ouais, voilà. Hein. Quand on est gentil, hein.
Voilà, ils ont supprimé la pub qu'il y avait avant.
Voilà, là, bon, voilà. Ok, c'est quand même du 20h50, ça nécessite quand même de faire des choix quand on, quand, 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 quant au sujet des épisodes, parce qu'il y a quand même des sujets un petit peu durs, on va dire, dans la section criminelle.
On l'avait beaucoup reproché à M6, justement, parce qu'ils étaient obligés de casser, pour leur trilogie, ils étaient obligés de casser les continuités de pas mal de séries. Donc, TF1 s'y est mis après coup.
Dans section criminelle, c'est quand même un petit peu moins important, hein, parce que de toutes les séries produites par Dick Wolf, c'est quand même celle où les vies personnelles et le cursus, on va dire, des différents individus est relativement secondaire, hein, exception faite de quelques saisons naturellement. Alors dans New York Action Criminelle, Vincent D'Onofrio, Catherine Herbe, Eric Bogossian, hein, c'est la nouvelle équipe un petit peu réduite au strict minimum. Deux épisodes donc inédits mercredi prochain 20h50, Eau Profonde numéro 5 de la saison 7 et La Racine du Mal qui est moins 10, donc programmé un petit peu plus tard. Numéro 3 de cette même saison 7, suivi d'un épisode de la saison 6 qui est pas dégueulasse du tout, hein, qui s'appelle Fin de partie, c'est un des derniers de la saison 6, avec Rita Moreno qui joue le rôle de la maman de Vincent D'Onofrio, et également Roy Scheider, hein, qui joue un personnage pas piqué des hannetons, et c'était quelques mois, je crois, où, avant ben, son décès, parce qu'il est décédé l'an dernier, en 2008, donc Roy Scheider, c'est l'un de ses derniers rôles, donc son dernière apparition sur le petit écran. Tout ça donc dans New York section criminelle, c'est mercredi prochain à partir de 20h50 sur TF1. Sinon, faut quand même rendre hommage à la série qui arrive à déboulonner régulièrement la Starac. C'est NCIS sur M6 le vendredi. Ils te les bouffent tout cru.
Ben, ils te les bouffent tout jeunes, cru. Allez hop.
Allez, à fond les manettes. Et dans l'épisode de vendredi prochain, le dernier, le final de la saison 5.
Ah, il y avait un cliffhanger hier.
Aïe, aïe, aïe. Eh ben,
le
quoi.
Le cliffhanger arrive.
Il y en a un qui va crever.
Pardon. Tu le fais pas avec la voix effet.
Il y en a un qui est crevé hier déjà.
Ah ouais, mais il y en a un autre.
Ah bon, merde.
Aïe, aïe, aïe. Ça va pas le faire, donc NCIS à partir de vendredi prochain 20h45, donc le dernier épisode de la saison 5, le jugement dernier. Alors on va saluer également la longévité d'une autre série pas trop dégueulasse, vraiment bien, hein, mais qui a un petit peu évolué, on va dire. C'est Autopsie, qui est rebaptisée d'ailleurs quand c'est diffusé sur TF1, Affaires non classées, hein, si vous regardez la télé très tard le samedi soir, après tous les épisodes de New York Unité Spéciale, vous avez droit à un épisode de Affaires non classées, mais qui en fait s'appelle Autopsie, hein, de son vrai titre, au départ diffusé par Canal Jimmy, et Canal Jimmy continue la diffusion de cette série, hein, avec la médecin légiste principale, héroïne de cette série. On en est à la saison 12 et c'est diffusé sur Jimmy à partir de vendredi prochain à 20h45. Mais il y a également des diffusions, donc je rappelle, hein, sur TF1, mais tard le samedi soir, vers 1h du matin. Un truc comme ça. Et saluons également
dans
bien...
notre cercle de minuit ce soir.
Ouais. Saluons également la reprise depuis le début, donc pour ceux qui ont loupé ça, de Torchwood. C'est sur Sci-Fi. Sci-Fi, si tu préfères, à partir de mardi prochain, 20h45, donc depuis le premier épisode de la première saison de Torchwood.
Attends, excuse-moi.
Ils ont enlevé Doctor Who de France 4 ou je me suis trompé?
Non, c'est programmé, hein, c'est la saison 4, parce que là, tous les mardis soirs.
Parce que là, cette semaine, ils ont mis Gagne Fille à la place.
Je crois qu'il y avait un problème à cause de la diffusion. Ils devaient ajuster par rapport à la diffusion d'un match.
C'est parce qu'il y
avait. Enfin, c'est France 4 maintenant. Voilà. Ça devient mauvais.
Mais c'est prévu pour un mardi prochain, hein, sans faute. Oui, attention, oui. Sauf sans faute. Hein.
Non, mais moi j'ai même pas regardé, voilà, sur France 4. Je suis dégoûté du traitement, donc je vais me les acheter en VO. Hein.
Comment, t'aimes pas la Coupe de la Ligue anglaise? Bon, d'accord. Pour terminer, une petite série. Une petite série de polar à la télé. Il y en a pas tant que ça. Hein. Si, il y en a quoi, mais enfin bon, il y en a que j'ai passé à l'as tout simplement. Là, il s'agit plus de petits classiques qu'on se revoit de temps en temps comme ça, histoire de passer un bon petit moment. Ce soir sur TCM à 20h45, à Fleur de peau de Soderbergh. C'est un remake, hein, de toute façon, quoi, d'un film des années 50-40, avec Peter Gallagher, Alison Elliott, William Fichtner et Elizabeth Chu. Dimanche, sur Cinépolar à 21h, La Loi de Murphy, voilà, de Jackie Thompson avec Charles Bronson, Murphy's Law. Et,
oui, oui, tout à fait.
Et Caris Nodres, et sur Action, et il est pas prêt, tu vois, quoi. Sur la chaîne Action, et oh, oh, sur la chaîne Action, t'envoies le morceau, là, quoi. Directement, le premier du disque, quoi. Je lui ai dit avant, je lui ai expliqué le topo,
tu vois. Je l'ai passé en fond sonore. Tu m'as dit de le passer en fond sonore.
Mais non, je t'ai dit de préparer, quoi. Mais ouais, enfin, rien entendu.
Manque de préparation.
Mais on a qu'un seul lecteur CD.
When a man is trying to make time with your woman, but you doing time behind bars and your time is standing still. Yo, Frost, kick it to these people for real, you know what I'm saying? Time sifts through the hourglass, through night and day, and I watch as the game's people. Sans rémission, le film American Me dans sa version originale de Edward James Olmos en 92, et avec Edward James Olmos, mais également Danny LaPace, William Forsythe, et ce film il tue vraiment, hein. Edward James Olmos qui joue le rôle, c'est l'ascension, on va dire, d'un petit jeune devenu gangster, et qui raconte un petit peu l'évolution des hispaniques dans le Los Angeles à partir des années 40, c'est-à-dire avant la guerre, les émeutes contre les Azous et tout ça, la guerre, et après ce qui s'est passé jusque dans les années 60 et 70, à travers donc l'évolution de ce personnage interprété par Edward James Olmos. C'est magnifique, c'est très bien, la musique qui tue, et ça vaut le coup. C'est sur Action, donc dimanche prochain à 20h40, sans rémission, American Me. Hey. Ain't no sunshine. 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 Anytime. Alors sinon, lundi, sur TPS Star, Breaking News de Jonito.
Ouais.
Avec Richie James, Kelly Chen, Nick Chung, Chung Shu Fai. Ça c'est sur TPS Star, lundi à 20h50. Sinon, 21h sur Ciné Polar, un bon Vincent Charmant de l'affaire de Trinidad, où il reprend le même duo magique de Gilda Glenford et Rita Hayworth. It's a Trinidad affair. Rappelle-toi cette chanson. C'est quand j'aurais aussi pu la ramener, tu vois, comme je me suis dit, bon, deux à la suite, ça va être un petit peu dur quand même. Il va pas assurer, déjà, qu'il assure pas avec un seul disque.
Là, on a vraiment du mal, hein.
Tu vois, c'est ce que je te disais. C'est lundi, donc, sur Ciné Polar, l'affaire de Trinidad. Mercredi, Ciné Polar, toujours avec le très bon, l'un des derniers, je crois que c'est le dernier d'ailleurs, de Hitchcock, Complot de famille, avec Karen Black, Bruce Dern, Baba Harris et William Devane, sur Ciné Polar, mercredi prochain à 21h. Jeudi, un petit film bien sympathique de Clint Eastwood, quand il faisait du actionneur sympa, film de commande et tout, mais enfin bon, on la joue un minimum et puis ça le fait. La relève de Clint Eastwood,
oh là
avec,
là,
avec Charlie Sheen et Raoul Julia,
ouais. Quand il se fait violer par la nana et tout.
Ah là 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 là, eh ouais. Tout avec ça, c'est sûr.
Ouais, et cette fameuse réplique qui sort à Raoul Julia, il doit y avoir une bonne trentaine de raisons pour que je t'épargne, mais là j'en vois aucune.
Ça c'est donc sur France 3 jeudi prochain 20h35, donc nouvel horaire. Sinon sur M6, qui joue presque le full frontal parce qu'il commence à 20h45, Bad Boys 2 de Michael Bay, enfin bon, dispensable.
Après avoir passé le premier.
À la limite dispensable, on va dire. Et sur Ciné Polar jeudi prochain également, un vieux Richard Fleischer de 72, pas si vieux que ça quand même, Don Angelo est mort, avec Anthony Quinn, Frédéric Forrest et Robert Forster. Vendredi sur Cinéma Classique, un des premiers Michael Powell en 1934, The Fire Raiser, avec Leslie Bank, Anne Gray, Carol Goodness. Sur Ciné Polar, vendredi prochain, 21h, Le Procès Paradis, ça c'est encore un Hitchcock, juste après-guerre 47, avec Gregory Peck, Alida Valli et Charles Lofton. Et on termine en beauté sur Orange, Ciné Choc, vendredi prochain, 21h, Le Guet-apens de Peckinpah en 72 avec Steve McQueen, Ali Mago et Ben Johnson.
Youpi! Non, JB, non, je sais, tu es crevé, mais malheureusement, il faut écarquiller les yeux et lire le prompteur.
Oui, Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route?
Oui, tout à fait. Nous avons eu aujourd'hui l'immense honneur de diffuser une interview de Bernard Minet.
Waouh.
Nous avons dégusté la galette des rois et c'est hélas moi qui ai hérité de la fève maudite, la chronique obligatoire de LOL. On a eu des aliens compilés, du comics, du Thor, du top et du flop cinéma 2008 par Mad Movies et plein de petites gâteries télévisuelles.
Non, d'une belle dub du cinéma français tel que bip ou encore bip. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégrale de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites. Fouillez dans nos archives, jouez à des quiz stupides, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr.
T'as essayé le quiz ?
Non, je suis pas encore allé dessus.
Ah, oh, dommage. Tu es en train de louper quelque chose de
mais
magnifique.
Mais promis d'ici samedi
parce
prochain.
Parce qu'à propos de grands films français, là, je crois qu'on a touché plus le que le fond.
C'est toujours Luc Besson ?
Oui.
Ouais, bon, ok, d'accord.
Ah,
bon,
il y a une surprise.
Ah.
Voilà.
Vous écoutez donc FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et en continu sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, Xavier...
Eh ben, ma foi, ce sera une émission à peu près normale. Cette fois-ci, j'espère que j'aurai le temps de rédiger mes chroniques.
Ouais, voilà. Parce que tu comprends, Xavier, il vient et pour casser les autres et il prépare jamais de chronique.
Ouais.
Ça rappelle. Tu casses pas les autres, tu casses le matériel. Voilà.
Non. Ou alors tu coupes les autres. Remets le micro, s'il te plaît.
J'y ai pas touché.
C'était la vengeance.
Je n'y ai pas touché.
C'est ce que tu dis. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Hein.
Allez.
Oh, oui.
Oui.
Allez, ciao, bye. Et de suite, c'est du sport. Merci à vous.